do. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Copelia Ménardier, Camille André, prise de son assurée ce soir par Pascal Baudin. Réalisation Daniel Finot, autour de moi, Laurent Nunez, Grégoire Leménager, Florent Georgesco pour parler ensemble de l'affaire Meyerling de Bernard Quirini chez Rivage, Phénomène naturel de Jonathan Franzen aux éditions de L'Olivier et Sainte-Croix, les vaches de Vincent Ravalec chez Fayard. Boris Pino surveille lui les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires sur les livres à notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le documentaire Finding Fong de Tran Phuong Tho et Swan Dubus Malay qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute en nous intéressant à Bernard Quirini, son nouveau roman, l'affaire Meyerling, publié chez Rivage. De Meyerling, résidence haut de gamme, de haut standing, de grand standing, on va voir que les mots ont leur importance, qui n'acceptent évidemment que les habitants eux aussi de haut niveau. Mais très vite, le havre de paix va se révéler un enfer du quotidien, je n'en dis pas plus pour l'instant. Une sorte de poésie industrielle dans ces noms de sociétés qu'on retrouve partout, dit Braque. Toujours les mêmes. Cogirep, Cogem, Cogerad, CG Pro, Sogerimo. Je peux en citer 20, 30, 50. Il montre les boîtiers où il range sa documentation. Personne à ce propos n'a aucune idée de ce que signifient ces acronymes. Les employés le savent-ils eux-mêmes? Pas sûr. Vous travaillez à la Soprime? Oui. Que veut dire ce nom? Peut-être les directeurs savent-ils, ou les plus anciens agents qui ont connu la réponse au début de leur carrière, suffisamment près de la création de l'entreprise pour que l'explication ne soit pas encore perdue, mais quand même, parfois, je me demande si ces noms ne sont pas créés au hasard par un logiciel. Comment cela? Bien comme dans 100 000 milliards de poèmes, mais avec des syllabes. Jeter au fond d'une boîte à papier, pro, imo, co, so, g, etc. Lancer un dé pour fixer le nombre de syllabes, puis tirer les papiers à l'aveugle, voilà le nom de la société. Vous croyez que ça se passe comme ça? Non, mais je n'ai pas la preuve que ça se passe autrement. Voilà un extrait presque au hasard de ce livre de Bernard Quirini qui vient de paraître chez Rivage, l'affaire Meyerling, qui fonctionne ainsi avec de très courts segments avec une première partie qui nous fait rencontrer deux individus passionnés par d'abord les annonces immobilières, mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque ensuite sera construit ce Meierling et les habitants viendront y vivre, Laurent Nunez.
Oui, ils viendront y vivre à leur risque et péril, hein, ces habitants. Alors, Bernard Quérini, c'est un écrivain très doué pour les nouvelles. Et évidemment, comme il le sait, et ben du coup, quand il écrit des romans, ses chapitres ont la taille de nouvelles. Mais ça marche très bien. C'est bien de reconnaître aussi ses points forts et de les faire jouer de la sorte. Du coup, en effet, l'idée est simple et presque surréaliste. Vous savez, les surréalistes disaient qu'ils trouvaient la poésie dans les journaux, dans les pubs. Voilà, Quérini, enfin le narrateur, accompagné d'un de ses amis, Braque, trouve beaucoup de poésie ou s'amuse beaucoup de ces affiches publicitaires qui vantent, vous savez, des immeubles qui vont se construire où les gens ont des sourires impeccables et des fleurs non fanées au balcon. Voilà, il part de cette chose-là. Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là qui sont sur les affiches de publicité des agences immobilières? Qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils habitent dans ce lieu-là? Et donc on va suivre la naissance, la vie et même la mort d'un bâtiment, d'un immense immeuble, Meierling. Et vie et mort d'un bâtiment, parce que ce bâtiment, tout d'un coup, les gens vont y vivre. Donc il y a trois parties dans le roman. Quand on construit le bâtiment, quand les gens y vivent, et puis enfin quand ils décident de partir, parce qu'en effet, tout d'un coup, on découvre que dans ce bâtiment-là, tout va à volo. Tout se passe très très mal et c'est assez drôle d'ailleurs. Quérini maîtrise très bien l'humour, l'ironie. Ça se passe très. Tout est inversé. Il y a les vieilles femmes recouvrent leur libido. Ils ne peuvent plus se contrôler devant les déménageurs. Les couples se disputent de plus en plus. Il y a de l'eau dégueulasse qui coule des robinets juste quand c'est les gens qui le font et pas quand c'est le plombier. Bref, il se passe des choses très étranges, presque surnaturelles.
Mais ça, on reste dans le début.
Oui, voilà.
Ça s'aggrave.
Et
on va pas trop en dire, hein.
Surtout pas, parce que voilà, c'est un livre qui fonctionne par étonnement. On ne sait pas du tout ce qu'on va avoir à la page suivante. Voilà, je suis très très content de ce livre. Je m'attendais pas à ce que Quérini fasse autre chose que ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une histoire où, vous savez, on sent clairement il est complètement maître de la narration. Il sait très bien écrire, il sait se moquer des trucs. Bref, on passe, il y a une complicité, une connivence avec le lecteur qui fait que ça se lit en 3 heures et on ferme le livre très joyeux, très heureux.
Florent Georgesco, fûtes-vous très joyeux en fermant ce livre?
Je l'étais encore plus en l'ouvrant. Je suis toujours très joyeux. Enfin, je suis toujours très joyeux. Mais en particulier quand je lis Quérini. On va m'appeler comme ça désormais.
Non, à propos de Quérini, moi j'aime beaucoup aussi, quand Laurent disait, il reconnaît qu'il faut faire bref, même comme c'est le roman, Le Village évanoui, qui était un roman, me semble-t-il, ne fonctionnait pas du tout avec de courtes scénettes, mais de longs et beaux chapitres.
Absolument. Pour moi, c'est une évolution chez lui. Je suis d'accord avec vous, Laurent. C'est quelqu'un qui est... c'est un des écrivains français qui m'intéresse le plus, en réalité.
Langue française. Oui, donc, de langue, puisqu'il est belge. Ce qui explique beaucoup de son magnifique humour surréaliste.
Il y a absolument quelque chose de l'ironie belge. Absolument. Mais il a une sorte de génie, proprement, dans les nouvelles. C'est une des choses les plus extravagantes. Chacun de ses recueils est plein des idées les plus belles, qui peuvent le plus rendre jaloux absolument tout le monde, parce que ce sont ces idées absolument évidentes, une fois qu'elles existent, mais que personne d'autre n'aurait pu trouver. C'est pour moi, il a une forme de grandeur dans la nouvelle idée. Il est un des auteurs de langue française les plus inventifs, les plus... J'ai beaucoup aimé chacun de ces deux précédents romans, si je ne me trompe pas, mais je l'avoue un peu moins. Et il est vrai qu'il y avait problème de maîtrise de la forme. Quelqu'un d'aussi bondissant, d'aussi capable d'éclats que lui avait peut-être du mal à distribuer ses éclats sur l'ensemble d'un roman continu.
Là, il les aligne, les éclats.
Et j'ai l'impression que cette forme brève est une tentative pour lui de retrouver son art de la nouvelle à l'intérieur du roman. Et il y a dans le roman, globalement, et au-delà même de cette différence de genre, un peu à la fois tous les aspects très intéressants chez Quirini, qui en réalité est un auteur presque contradictoire. J'allais dire, il a des voies, des tendances qu'on ne rencontre pas souvent chez un même auteur. Le passage que vous avez lu, Arnaud, est assez typique d'une veine assez bavarde, je dirais. Et bavarde, je le prends dans un sens extrêmement positif, parce qu'il renoue avec une vieille tradition de littérature de promenade et de bavardage. Ce roman-ci est, au fond, d'abord la longue conversation de deux amis qui traversent cette histoire, qui se racontent à eux-mêmes cette histoire, qui jouent avec cette histoire, qui vont enquêter. On est d'abord pris dans de l'amitié, qui est dans cette espèce de fil qui peut remonter même à Diderot. On est dans le roman de dialogue, de compagnonnage. Je suis, connaissant un peu la grande culture de Quirini, je ne serais pas surpris qu'il ait pensé aussi à des romans un peu oubliés aujourd'hui, peut-être, de Dutour. Il y a quelque chose de... Dutour a fait, par exemple, un roman assez extraordinaire qui s'appelait Les Horreurs de l'amour, qui était construit de cette manière, c'est-à-dire deux camarades traverser Paris, se promener, aller dans des restaurants, aller partout, en se racontant une histoire. Et ce plaisir de raconter une histoire est une des veines avec laquelle il joue là de manière très vive, très charmante. Et en même temps, il met dans ce bavardage toute sa puissance imaginative, toute cette veine fantastique. Il est même, à mon avis, très clairement dans le fantastique au bout d'un moment dans ce roman.
Complètement.
Tout ce surréalisme et toute cette, encore une fois, cette créativité, cette inventivité extraordinaire, il la met à l'intérieur de ce roman bonhomme et bavard, ce qui est un contraste extrêmement étonnant. Et c'est une des choses qui, pour moi, est très précieuse dans ce livre.
Je reviendrai vers vous aussi. Grégoire Leménager, est-ce que vous partagez notre enthousiasme?
J'aimerais beaucoup.
Ah, voilà une parole contradictoire, mais c'est très bien.
Non, j'aimerais beaucoup parce que moi, j'aime énormément Quirini. J'aime beaucoup ses nouvelles, effectivement, qui sont formidables. Je me souviens d'une nouvelle dans laquelle il imaginait que les gens se mettent à changer de nom, comme on peut changer de vêtements ou de sexe, pour échapper au déterminisme que peut faire peser un nom sur quelqu'un. Donc, il pouvait changer de nom du jour au lendemain et ça foutait un
bazar.
Bordel dans la société.
Un bazar, c'est le mot que vous cherchiez.
Extraordinaire.
Je sais bien.
Donc, il est excellent sur les formes brèves, Quirini. Il est excellent pour ce qui est de l'humour. Il est excellent pour introduire du fantastique dans tout ça. C'est vraiment un des meilleurs disciples qu'on puisse imaginer de Marcel Aimé. Et dans le monde particulièrement absurde où nous vivons, on a besoin de disciples de Marcel Aimé. Là, quand même, c'est virtuose. Tout ce que vous avez dit est juste. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement répétitif, je suis dans un état de fatigue trop avancé pour apprécier toutes les nuances, toutes les variations sur le même thème, mais ça reste quand même le même thème du début à la fin. Je trouve pas qu'il y ait tellement de surprises, c'est-à-dire que oui, au début il y a des phénomènes un peu étranges qui se produisent, c'est-à-dire que mais qui se produisent aussi chez moi, malheureusement. C'est-à-dire que le facteur se trompe systématiquement quand il remet les lettres dans les boîtes aux lettres.
Enfin, et puis petit à petit,
il y a des phénomènes plus étranges et de plus en plus étranges.
Ne nous invitez pas chez vous.
C'est un peu effrayant.
Je trouve que il y a évidemment plein de pages où j'ai ri. C'est très très malin. Il a une façon de citer ses maîtres sur le sujet qui sont Topor, Marcel Aimé à la fin. Et d'autres, et Pérec un peu, et tout ça. Tout ça est parfaitement maîtrisé, mais je trouve qu'il y a un problème de rythme qui se pose, et sur la longueur, c'est un peu ennuyeux quand même. On voit où ça va, et ça appuie un peu.
Pour le coup, moi j'ai vu d'infinies variations tout au long de ce livre, j'ai vu quand même une progression ininterrompue, parce que évidemment ça fonctionne par fragments, par éclats, mais la façon dont on suit par exemple le couple Le Moine, parce que c'est le premier qu'on rencontre et qu'ils ont une part importante, vous en parliez, hein, les jeunes amoureux se détestent évidemment dès qu'ils sont dans cet immeuble-là, mais de façon très violente, ou cette dame qui collecte les ordures pour les amasser chez elle. Mais ce que j'aime, c'est ce mélange qu'il y a, ou cette juxtaposition d'éléments parfaitement vrais, ce que vous disiez, ce qu'on peut vivre chacun, les colocations d'étudiants qui font la fête. J'ai connu ça il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que ça peut rendre fou, donc ça y est aussi.
Ce fléau de l'habitat collectif.
Ce fléau de l'habitat collectif, exactement. Et en même temps, il y a des incursions plus que cela encore dans le fantastique. Et puis, il y a aussi ces éclats. Alors, il y a des éclats dans les éclats, parce qu'il y a même quasiment des aphorismes, toujours à propos du bruit, donc, parce que ça m'obsédait particulièrement. Le voisin dans un immeuble équivaut à l'acouphène. Impossible de s'en débarrasser, il est à l'intérieur. Et cette phrase, comme l'acouphène, le voisin rend fou. Donc voilà. et il y en a, peut-être pas à toutes les pages, mais enfin, il y a cette progression toujours. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, on s'étonnera pas qu'il soit belge, Bernard Querini, parce que c'est vraiment cet héritage-là, moi, que je vois du seul surréalisme drôle, c'est-à-dire le surréalisme belge. Florent Georgescu.
C'est-à-dire que moi, je ne pense pas, en réalité, que ce livre soit si maîtrisé que ça. C'est pas ça que j'aime chez lui. Qu'il soit répétitif, il l'est très souvent volontairement, il faut reconnaître un art du comique de répétition. Et justement, ce fameux jeune couple, il y a quelque chose qui nous a à l'usure dans cette histoire-là, dans la répétition. Oui. C'est-à-dire, chaque fois qu'il passe la porte de cet immeuble, il s'engueule. S'il part en week-end en Bretagne, il s'aime à la folie, et puis il se réengueule ensuite, ils veulent se tuer, et ainsi de suite. Il y a ce comique de répétition. Ça, c'est, à la limite, c'est maîtrisé. Mais il y a aussi, bien sûr, quelque chose qui peut être répétitif. Il y a un système dans ce roman. Et puis, il y a aussi des choses qu'il laisse tomber en cours de route. Pour moi, le charme du livre ne tient pas du tout à sa maîtrise, mais à la limite, au contraire, c'est ce que j'évoquais en parlant de cette tradition bavarde. Ce livre a un charme qui, pour moi, est plus fort que tout, mais c'est un charme désordonné. C'est un bouillonnement. C'est un livre foisonnant qui part dans tous les sens, qui glisse parfois, il peut y avoir des pages qui m'intéressent moins, mais enfin, on est tellement dans quelque chose de vivant, on est tellement dans quelque chose d'inventif. Sincèrement, on ne tombe pas très souvent, vous disiez, Grégoire, vous avez ri, mais enfin, est-ce que ça vous arrive si souvent en lisant les livres ?
Je me suis permis d'être un peu méchant, parce que vous étiez très élogieux, mais évidemment, je regrette pas du tout d'avoir lu.
Écoutez, je ne veux pas m'auto-divulgâcher, mais enfin, quand on pense à certains autres livres, et on va en reparler tout à l'heure, quel bonheur que les imperfections de ce Querini-là. Voilà, moi, et encore une fois, c'est un type qui mélange Borges et Dutour. Et ne serait-ce que cette bizarrerie esthétique-là lui donne beaucoup de charme. Un charme un peu chaotique, mais il est d'autant plus grand pour moi.
Bon, vous vous auto-divulgachatez à l'instant, mais on parlera plus tard de la suite, Laurent Nunez.
Non, mais en effet, alors il faut dire que j'ai l'impression, moi, que Bernard Querini aussi, c'est un grand lecteur de Stephen King. Parce que Le Village Évanoui, ça ressemble beaucoup à Under the Dome. Et ça ressemble beaucoup à Shining. Alors, c'est vrai, toujours en plus drôle.
Ouais.
Et ses recueils de nouvelles, il pourrait y avoir 10 romans de King là-dedans. Franchement, il a ce niveau de.
Mais c'est pour ça, il arrive à puiser des idées et à injecter du Querini dedans.
Querinise.
Oui, mais Querini, mais c'est très compliqué, à mon avis, à faire. Notamment, la troisième partie, m'a vraiment surpris d'aller presque politique. C'est rare plutôt. Et là, on retrouve presque, j'allais très loin presque, on retrouve presque le Querini lecteur de Castoriadis. C'est-à-dire vraiment, voilà. Est-ce qu'il est possible de détruire la société ? C'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que quand on a acheté quelque chose, est-ce qu'on a acheté le droit de la détruire ? Voilà, c'est une question qu'il pose, à laquelle il répond aussi. Il répond nettement, on peut dire ça.
En position.
Il philosophe à coups de marteau piqueur, mais voilà, c'est extrêmement intéressant. Et puis vraiment, quand on regarde le livre, on découvre à chaque page qu'il y a presque une sorte de défi qui s'est lancé. Comment arriver à faire dire cette blague par un personnage sans trop en dire, etc. C'est très étonnant. Vous savez, on a vraiment l'impression qu'il est... c'est-à-dire qu'il croit tellement peu en sa narration qu'en fait, il croit beaucoup en la littérature. Il croit tellement peu en... Il a tellement pas envie de copier le réel qu'il peut dire n'importe quoi, revenir deux minutes après, dire bah non, c'est faux, faire une longue description des napperons, et puis dire en fait, jamais vu des napperons aussi laids tout d'un coup.
Il navigue à vue d'ailleurs, ouais. il montre les coutures, il montre comment il fabrique son livre à mesure. Grégoire citait les références, il y a Ballard aussi d'ailleurs.
Ouais.
Il donne toutes ses sources, il apporte le dossier de son roman en train de se faire. La littérature chez lui dépasse totalement la narration. C'est là aussi que la forme brisée lui va particulièrement bien. En fait, je crois qu'il est en train d'inventer sa manière d'écrire du roman et que ça peut donner des choses peut-être meilleures que ça, mais très belles.
Boris Pinault, avant de vous redonner la parole, Grégoire, quelques commentaires glanés sur les réseaux sociaux.
Oui, via Twitter, François L. Écrit sur un roman où l'absurde côtoie le descriptif documenté. L'influence de Ballard, justement, est revendiquée. Geneviève Munier, la belle découverte d'un auteur que je ne connaissais pas et d'un roman jubilatoire. Et In and Out, Bernard Quirini propose une satire déjantée et drôle de la civilisation du béton et de l'habitat collectif dans l'affaire Meyerling.
Alors, on recommande à la deuxième de se précipiter sur ce recueil de nouvelles également, mais je pense que si elle nous écoute, elle le fait. Grégoire Le Ménager.
Je crois que j'ai trouvé pourquoi ce livre m'a un peu déçu par rapport aux autres livres de Quirini. Je vais dire un gros mot, hein, mais c'est quand même un roman à thèse. Et Quirini, jusqu'à présent, avait le don de ne jamais se prononcer sur ce qu'il nous racontait. Le village évanoui, c'était une fable sur la démondialisation. Il était impossible de savoir si Quirini trouvait que la démondialisation, c'était bien ou c'était pas bien. Il y avait du pour, il y avait du contre, tout était extrêmement ambigu. Et là, avec tout ce que vous avez dit, qui est parfaitement juste, évidemment, et on retrouve son rapport au réel, son inventivité, ses jeux avec le lecteur, je suis tout à fait d'accord, et c'est très agréable, comme une bonne satire, comme vient de le dire un de nos auditeurs. Mais tout va dans le même sens. Tout. Et il tape sur l'habitat collectif, sur sur tous les inconvénients de l'habitat collectif. Et je trouve que là, il y a une forme de facilité intellectuelle. Et c'est peut-être ça qui rend le livre un peu lassant. Je pense qu'il y a ce problème-là.
D'un autre côté, il se trouve que je suis totalement d'accord avec vous. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas dans le livre. Je trouve qu'il nous balance du message à dose parfois trop élevée. Et en même temps, ça ne m'a rien gâché. Donc tant voilà, mieux. Après c'est une question d'équilibre. Mais je suis d'accord avec vous, il est démonstratif par moments, et sa thèse n'a pas beaucoup d'intérêt, ça fait assez longtemps qu'on lit des choses contre le béton.
Laurent Hunez, pour conclure.
Pour conclure, il faut que Rivage a profité de la sortie de ce livre pour sortir l'histoire assassine en poche. Donc on peut faire d'une pierre deux coups et aller voir son libraire.
Bon, écoutez, voilà ce qu'il faut faire pour Bernard Quirini. Donc nous parlions là de l'affaire Meyerling, publiée chez Rivage. Et à suivre dans la dispute, Jonathan Franzen et Vincent Ravalek.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature avec le deuxième roman de Jonathan Franzen, Phénomène naturel, dans une traduction d'Olivier Deparis chez aux éditions de l'Olivier. Alors lorsque ce livre a été publié aux États-Unis en 1992, Franzen avait alors 32 ans. Il lui faudra attendre 2001 avec les corrections pour publier à nouveau et accéder, on le sait sans doute, à une reconnaissance internationale. Depuis 2001, Franzen n'a publié que deux autres romans. Donc on peut revenir ici sur les presque débuts d'un écrivain peu prolifique.
Mary Brabus did not look her best. The day the cops bust into a lonely nest. In that cheap hotel up on Hollywood West. Neighbors said they never heard a squeak. But hungry eyes that could not speak said even little doggies have got to eat. She was a winner. That became the doggies' dinner. She never meant that much to me. Whoa, or me.
Alors, encore un gros roman, n'est-ce pas, Laurent Hunez, c'est de Jonathan Franzen. Enfin, encore, hein, c'est-à-dire que celui-là, on l'a bien compris, date d'il y a 25 ans, mais il ne nous arrive que maintenant. Bon, c'est vrai que le succès éditorial de Jonathan Franzen conduisait tout naturellement son éditeur à l'offrir à son lectorat français. C'est tout à fait légitime. Pour autant, Florent Georges Escoir, c'est toujours un peu périlleux, hein, qu'on aime ou pas un auteur, d'aller rechercher un de ses premiers textes. On sait que ça peut être dangereux. Mais est-ce que vous avez un goût pour Jonathan Franzen déjà ?
Je n'ai pas un goût infini, démesuré pour Jonathan Franzen. Bon. Mais cela dit, je trouve ce livre-là encore plus mauvais que les autres.
Ça mérite d'être clair.
C'est... Il faudrait, je ne me suis pas renseigné, je l'avoue, sur les raisons qui font qu'il n'a jamais été traduit jusque-là. En tout cas, à l'époque, personne n'a pensé qu'il était absolument nécessaire de le traduire en français.
Je l'ai compris. C'est un écrivain relativement méconnu.
Oui, mais enfin, on en traduit d'autres de relativement méconnus.
Vous avez raison.
On en traduit même beaucoup en France chaque année. Écoutez, pour moi, c'est une sorte de roman éprouvette, comme les bébés. Sauf que les bébés éprouvettes, ça devient des êtres humains. Ici, on voit très bien la totalité des dosages que Franzen a eu en tête. Et puis, voilà, il n'y a pas de bébé. Rien ne se passe.
Alors, quels sont ces éléments ?
Alors, ces éléments sont des éléments de type marketing. C'est très simple. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons de grandes questions politiques. C'est merveilleux, les grandes questions politiques. Il faut, pour devenir un écrivain important, traiter les grands sujets. Et alors là, nous avons... Il a réussi, d'ailleurs, c'est une sorte de tour de force dans ce type de recherche de prestige. Il a réussi le tour de force de nouer ensemble la question de l'avortement et la question de l'écologie. Franchement, chapeau. Il le fait. Alors, c'est peut-être un détail de manière absolument échevelée, qui ne tient pas debout un seul instant narrativement. C'est extrêmement balourd, extrêmement ennuyeux. Mais enfin, il le fait. Il faut ajouter à cela, évidemment, de la mélancolie. Il faut que les personnages soient un peu marginaux, d'un caractère un peu fêlé. C'est plus concernant pour le lecteur. Il faut que le lecteur se sente lui-même accueilli et sente sur lui ce regard bienveillant de quelqu'un qui s'intéresse à des personnages qui sont à la lisière de la normalité. Bon, il faut ça, il faut évidemment de l'amour, il faut du sexe. Il y a une scène de sexe, vous vous souvenez comment s'appelle ce prix, les Bad Sex Awards ? J'ai des candidates. Vous savez, c'est chaque année, c'est un jury américain, je crois.
Des Anglais, je crois.
Anglais ? Ah oui. En tout cas, dans la littérature anglo-saxonne, choisissent une page qui est la pire scène de sexe possible dans le roman.
La liste des nominés doit être longue.
Norman Mailer l'a eu, je crois.
Oui. Et c'est toujours un plaisir chaque année de lire ces scènes-là qui sont en effet. Là, il y en a d'assez jolies. Enfin bon, il y a tout. Il y a tout, justement, dans ce livre. Il y a tout et rien ne se passe. Alors franchement, je vous l'ai dit en commençant, je n'ai jamais été passionné par Franzen. Je trouve que c'est typiquement un auteur extrêmement surévalué. Mais il est évident que dans ses livres suivants, il a acquis une maîtrise beaucoup plus grande que dans ce livre-ci. Tout ce mélange que j'essaie de décrire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous les... Parce qu'en fait, si on regarde chaque chapitre, chacun est composé... Il y a tout ce qu'on doit mettre, il y a tout ce qu'on doit dire sur la société. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, l'avortement, il est pour. Hein. Il est très opposé aux méchants. Il est très très opposé aussi aux méchants pollueurs qui foutent la planète en l'air. Hein. Rassurez-vous sur ça. Donc, il faut dire tout ça. Mais en plus, il y a une sorte de manière frimeuse de composer chaque scène. Il faut toujours en arriver à la scène à faire, au moment à faire.
Bref, vous adorez.
Enfin, je crois que je sais exprimer mon enthousiasme. On peut au moins me reconnaître ça.
Extrêmement communicatif.
Mais encore une fois, juste, c'est d'une grande imperfection. En plus, tout cela est mal combiné. On a quand même, moi, j'ai eu beaucoup de mal à tenir ce livre, même physiquement, comme il est gros, il est lourd, et je dois dire que lire ça le soir, quand on est un peu fatigué, ça tombe des mains parce qu'on s'endort. Mais cela dit, le pire avec ce livre, c'est qu'on se dit, mais est-ce que si tout ça avait été bien maîtrisé, mieux raconté, mieux fait, avec plus d'éclat, est-ce que vraiment ça aurait été intéressant ? Non, même pas.
Bon, bah écoutez, voilà un avis tout à fait définitif, même s'il y aura peut-être des post-scriptums à suivre. Grégoire Le Ménager,
des nuances, vous voulez dire ?
Jonathan Franzen, et vous ? Pour situer non, déjà la façon dont vous avez approché ce texte.
Au moins, ça ne vous a pas paru trop court.
C'est
déjà...
c'est indéniable.
Mais ouais, je serais peut-être un peu moins violent. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce livre. Parce qu'il veut mettre beaucoup de choses, beaucoup de grands sujets. Ouais, il maîtrise pas encore toute cette matière. Il y a trop de choses dedans. Après, je serais moins violent parce que, disons que le livre fonctionne par passage. Je trouve qu'il y a certaines parties du livre qui marchent pas du tout. Je trouve que les 200 premières pages sont épouvantables. On est complètement fou. C'est gênant. Non,
les 200
premières
pages,
j'ai dû vraiment m'accrocher. Les 200 dernières ne auraient pu être plus courtes.
Il y en a 50 pas mal.
Mais au milieu, je trouve qu'il y a de très beaux passages sur le.
Mais tout à fait aussi violents.
Qui sont en fait les moments où ce gros roman total se transforme en une espèce de roman de thriller, quoi. Enfin, de roman policier. Plutôt, il y a 200 pages qui sont plutôt bien fichues, où enfin on comprend l'enjeu, qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, et il y a une sorte d'enquête qui se met en route. Et là, il y a des fils narratifs qui fonctionnent bien, et du coup, toute cette matière qui est autour, toutes ces grandes questions qui sont autour, viennent se greffer sur cette épine dorsale là, qui est donnée par la structure du polar. Et je me suis dit que ça aurait pu donner un bon polar, pas un polar génial, mais un bon polar avec quelques questions politiques au passage sur le féminisme, l'avortement, un peu d'écologie, un peu d'anticapitalisme, tout ça, toutes sortes de causes qui me sont plutôt sympathiques par ailleurs. Donc pourquoi pas. Et puis il y a une histoire d'amour les scènes de sexe sont catastrophiques. Mais sur les sentiments des personnages, bon, dans un roman un peu néo-naturaliste comme ça, je trouvais que c'était pas mal. Enfin, je me suis beaucoup moins ennuyé, disons, que pendant les 200 premières.
Et les 200 dernières,
bon, tiers, on va pas trop déflorer, mais non, les 200 dernières, oui, ça traîne en longueur là. Pour le coup, il y a une idée qui est beaucoup beaucoup répétée de mille manières, et c'est un peu, on a hâte que la fin du monde arrive là.
Et pour vous, Laurent Nunez, Jonathan Franzen et ses phénomènes naturels, mais ces tremblements de terre.
Oui, voilà, bah oui, c'est ça. Voilà, il faut dire le sujet du livre, c'est ça. C'est
que, voilà, on a oublié de parler des tremblements de terre.
C'est pour ça que je le glisse, incidemment.
Voilà, c'est un tremblement de terre, un petit tremblement de terre va faire une victime. C'est une vieille dame très riche et qui lègue 22 millions. Et du coup, ça va déchirer une famille. Donc il y a tout dans ce livre, en effet. C'est microcosme, macrocosme. Ça détruit une famille avec un...
Comme c'est habile.
Un personnage principal qui est mal dans sa poutre, et la radio, tout d'un coup, la radio est achetée par des méchants intégristes. Donc c'est le côté anti-avortement là qui surgit. Il y a l'histoire d'écologie, parce qu'ils tombent amoureux d'une femme qui fait des recherches, qui est persuadée que c'est... La grande question de ce livre, c'est d'où viennent ces tremblements de terre. Voilà. Alors, il y a ceux qui pensent que ça vient de Dieu, c'est la secte. Ceux qui pensent que ça vient d'une société... une société qui fait des forages, qui donc et là c'est le risque de l'argent, le capitalisme, donc, etc.
Ce qui est quand même plutôt le cas, disons-le.
Oui, oui.
Le gâchon un peu.
L'auditeur aura deviné.
Donc voilà. Alors, est-ce que c'est Gaïa qui se rebelle? Est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est juste un tremblement de terre? Est-ce que c'est la marque d'une fêlure des hommes, etc. Voilà. Vous savez, on a l'impression qu'on a remis une pièce dans la machine du roman total. Qui le grand rêve des écrivains américains. Est-ce que ça l'est encore? J'espère pas. Et bon, il y a ce livre-là qui en est sorti.
Mais la pièce résonne dans un grand vide quand elle.
Oui. Moi, je serais moins cruel quand même que mes collègues. Je compare ça un tout petit peu. Attention, ça va faire hurler mon voisin sûrement. C'est un peu la tentation de Saint-Antoine de Flaubert. C'est-à-dire
je suis son voisin et je hurle.
Je hurle. Allez, hurlez, Florent.
C'est-à-dire que visiblement, Franzen a voulu faire un livre où il mettait tout, absolument tout, et oui, il met tout. Alors le problème, c'est qu'il met tout, mais tout ce qui est propre. Ouais. C'est un roman très propre, vous savez.
Moi, mais parce qu'il met tout ce qui lui donnera une place comme écrivain. Tout ça est totalement artificiel et de mauvaise foi.
Il y a des cases qui sont vraiment cochées. Ça en fait un blockbuster. C'est ça. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un livre. C'est un film. On dirait, j'allais dire. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Ça, ça ferait un très bon Spielberg.
Non, c'est très mauvais.
C'est la même chose.
Je donne, tout français.
Vous voyez, c'est ça. C'est une chaîne de Spielberg. On a l'impression que c'est fait pour envahir une sorte de culture mainstream. Donc bon voilà, bon ben ça nous touche.
C'est un instrument de domination en fait. Oui. C'est une manière de prendre du pouvoir.
Et donc comme ça avait raté ce coup-là, il a mis 7 ou 8 ans à faire les corrections qui lui a valu la une du Time ou de Newsweek en disant que c'était le plus grand écrivain américain vivant. Donc effectivement, on assiste là à un essai pour partie raté, mais pour autant, c'est vrai que moi je ne suis pas non plus très friand de ces livres. Il y a tellement c'est cette malédiction hein, des écrivains américains, vouloir être le grand écrivain américain, oui, à dire le monde, à dire... Enfin, ceux qui y arrivent ne le font pas du tout de cette façon-là, bizarrement, mais il y en a beaucoup qui essayent de mettre absolument tout, et c'est ce qu'on verra dans les livres suivants de Franz Zahn, qui finalement suit tout à fait son chemin. Alors, moi, j'ai pas lu le premier roman de Franz Zahn, je sais pas s'il existe en français, mais c'est intéressant en même temps, enfin, il faut vraiment avoir du temps, de voir l'évolution des choses, mais on sent tellement
si je suis condamné à 20 ans de prison, je pourrais peut-être m'y intéresser.
Oui, deux mois suffiront.
On aurait mieux à faire.
Mais il y a cette volonté, vous le disiez très bien, les uns et les autres, quand même, de cocher toutes les cases et de prendre les bons sujets. Enfin, moi, j'étais assez frappé quand même de voir les quelques entretiens que Franz Zahn avait donnés en France, donc du coup pour la publication de ce livre, où en gros il dit oui c'est vrai je suis visionnaire mais bon c'est il suffit de regarder le monde, enfin il y a quand même un contentement de soi qui est assez étrange, non? Grégoire Le Ménager, j'exagère, vous pensez? Moi ça m'a agacé. Hein.
Le contentement de soi et le but.
Enfin je comprends que ce soit agaçant, mais non c'est on peut pas dire que c'est calibré pour plaire à la culture mainstream et tout ça, c'est pas vrai parce que le livre est trop mal fichu pour ça. Il a quand même une volonté d'utiliser différentes formes d'écriture, il y a quelque chose d'un peu moderniste par moment, très naturaliste à d'autres.
Il veut être le grand écrivain de son temps.
Oui, si vous voulez, mais pas forcément plaire au très grand public, c'est pas vrai.
Ah non, j'ai pas des grands publics.
Mais c'est pas parce qu'on
soit reconnu comme le grand écrivain.
C'est pas parce qu'on rate une arnaque qu'on est un mauvais. On n'est pas un arnaqueur. Vous comprenez? On peut être mauvais dans ce qu'on fait parfois.
Si vous voulez. et ensuite, je trouve un peu sévère aussi parce que le traitement de la question écologique et tout ça qui est en train d'envahir l'espace public depuis pas si longtemps quand même. La manière dont il l'apprend dès 92. Il y a un petit côté visionnaire. Je dis pas que c'est génial.
Je me rappelle Dumont 74.
Oui, hein, j'allais le dire.
À la présidentielle française.
Oui,
est-ce que c'est l'écologie ou est-ce que
la question de l'enfouissement des déchets qui finit par créer
le Larzac, c'était dans les années 70. En fait, c'est pas si nouveau en 80.
Voilà, est-ce que c'est vraiment en plus un roman sur l'écologie ou est-ce que moi j'ai plutôt l'impression d'avoir eu affaire à un texte de greenwashing, c'est-à-dire vraiment de quelqu'un qui veut être le romancier écolo parce que du coup il y en a peu donc du coup il se
positionne sur l'écologie,
sur le féminisme,
mais voilà, non mais vraiment voilà, moi ce qui m'a dérangé c'est que c'est un livre très propre, voilà, c'est jusqu'à la fin le happy end, voilà,
il y a vous l'avez dit.
Oui mais pour qui?
Les gentils. Comme ça laisse plein de...
Mais non, les gens auraient pu croire que c'était les méchants.
Quel dommage. Vous pourriez répéter avant de venir, parce que là, ça s'entend. Bon, nous avons quand même un avocat avec Grégoire Le Ménager qui défend
Pour les 200 pages du milieu, oui.
L'avocat de 200 pages, c'est ça.
Alors, 200 pages que j'ai lues avec plaisir.
Faites une coupe, alors sautez les 200 premières, vous lisez un résumé quelque part, lisez les 200 suivantes et peut-être allez plus vite sur les 200 dernières. C'est ça le conseil. Bon, écoutez, on peut bien dire du mal d'un auteur qui n'a pas de problème pour vendre. On ne tape pas sur les petits dans la dispute, mais on peut parfois se permettre de dire ce qu'on pense. C'est toujours ça que je vous demande aux uns et aux autres. Phénomène naturel de Jonathan Franz Zahn aux éditions de l'Olivier, dans une traduction d'Olivier de Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute littérature, c'est le retour de Vincent Ravalec. Je dis retour parce que je dois avouer que j'avais un peu perdu sa trace depuis un moment. On se souvient, pour les plus âgés, qu'il avait été révélé avec son premier roman, Cantique de la racaille, en 1994, qui avait décroché le premier prix de Flore, qui fut un succès de librairie, qui fut, je crois, aussi un film qu'il me semble avoir vu. Ravalek a depuis régulièrement publié... Non, c'était un grand moment, pur moment de rock'n'roll qui était oui. devenu un film. Mais peut-être Cantique de la racaille
qui était un recueil de nouvelles.
Il faut que je vérifie.
Son premier livre, c'était le rock'n'roll.
Oui, je ne sais plus.
Au dilettante.
Ah, très bien. Il faut bien me rectifier. Depuis, Ravalek a très régulièrement publié, sans toutefois rencontrer le même succès. Il a aussi développé une grande activité, ça je le sais, en tant que scénariste, mais aussi comme réalisateur. Sainte-Croix, les vaches, c'est donc le titre de ce nouveau roman qui paraît chez Fayard. C'est un village, ou plutôt un hameau, plutôt entre un village et un hameau. Ce n'est pas très animé. Il y a une mairie, minuscule, une salle des fêtes, une école, un café qui devait faire épicerie, tabac, maison de la presse, qui a l'air fermé. Quelques maisons complètent le tableau en pierre, farouche, indifférentes au gel et aux canicules. Et on pourrait être dans les années 60, quand la modernité commençait tout juste à pénétrer les campagnes. Sainte-Croix-les-Vaches est l'épicentre d'une zone de, disons, de solitude rurale, de déshérence campagnarde, une zone blanche en tout cas, dans un périmètre d'une centaine de kilomètres, il n'y a rien. Rien ? Pas si sûr. Quelques fermes vaillantes, courageuses, héroïques ont résisté à la désertification. Si, tels les vautours qui errent dans le ciel floqué de nuages, on pouvait survoler la région, magnifique, sauvage, évidemment, on découvrirait, épars, des îlots enchâssés au hasard du relief de ces demi-montagnes, jaunes de sécheresse l'été et blanches de neige l'hiver. Qui peut bien y habiter ? À vrai dire, cela fait longtemps que plus personne ne se pose la question. Tout le monde s'en fout. Qu'il reste quelques pédzouilles sans internet, que les bienfaits de la civilisation n'atteignent pas, n'a pas de signification statistique. Et si personne ne les dérange, ils ne dérangent personne non plus. Un no man's land. Le petit village d'Astérix, mais sans Romain autour, juste une indifférence, un oubli. Ainsi commence le chapitre 1, j'ai sauté le chapitre 0, de ce livre de Vincent Ravalek dont commence à nous parler Grégoire le Ménager.
Moi aussi, je l'avais complètement perdu de vue, Ravalek. J'avais essayé deux ou trois fois, là, au cours de ces 10 dernières années, de lire ses livres. Ça me tombait des mains. Et puis là, celui-là, je me suis vraiment beaucoup amusé. Je trouve qu'il a un talent de satiriste. Il a une façon de parler du problème de la désertification rurale complètement par-dessus la jambe et quand même d'en parler finalement. Et en gros, il va nous confronter les paysans de ces causses là, dans ce bled perdu d'Auvergne. Il va les confronter avec une jeune fille, une jeune femme, pardon, une jeune parisienne, très parisienne, qui fait partie d'une nouvelle génération politique, avec une nouvelle étiquette politique qui s'appelle En Avant, et qui vient pour faire de la permaculture sociale, et qui vient avec des espèces de concepts un peu fumeux comme ça.
Faire des Fab Labs.
Voilà, ce genre de choses. Et ce qui est très marrant, c'est que et là il est très habile, je trouve, c'est que il manipule que des clichés du début à la fin, mais les clichés il les fait endosser par ses personnages. C'est-à-dire que les paysans projettent des clichés sur les Parisiennes. Les Parisiennes projettent des clichés sur les paysans. Elles voient en eux de bons sauvages, alors que le jeune maire du village n'est pas exactement un bon sauvage, puisque quand même son activité consiste à produire des tonnes de cannabis qu'il
bio,
du cannabis bio,
attention,
qu'il exporte bio sur le marché marseillais, et il est bio, labellisé bio avec écrit bio sur les sachets pour concurrencer les Marocains et tout ça. Et le type, en fait, c'est un mafieux, quoi. Et ça, les deux Parisiennes le voient absolument pas parce qu'elles projettent des clichés sur eux. Mmh. Et du coup, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que chaque personnage joue un rôle devant les autres, essaye d'instrumentaliser l'autre, une sorte de bras de fer comme ça qui s'installe. Et vraiment, enfin moi j'ai bien rigolé. Il y a un côté Pagnol Punk, quoi. C'est une sorte de remake de Jean de Florette. Très décontracté, mais assez efficace.
Est-ce que c'est un avis partagé par Laurent Nunez, qui fait des grands yeux effarés en vous écoutant, hein, je précise à nos auditrices et auditeurs.
Zut. Non. C'est amusant. Ce livre, si vous saviez la difficulté que j'ai eue déjà à l'obtenir de la maison d'édition, je pourrais en parler pendant une demi-heure. Et puis...
Il reste 13 minutes.
Oui, voilà. Mais enfin, quand je l'ai eu dans les mains et que je l'ai lu, j'ai compris, à mon avis, pourquoi j'avais eu si peu tant de difficultés à l'avoir. C'est qu'à mon avis, il savait très bien que j'allais pas aimer ce livre. C'est un livre qui pour moi, est très mal écrit. C'est un livre où la première chose que je vois dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte d'écriture à la cool, qui est ce que moi, très personnellement, je prends 1000 guillemets et je tourne à chaque fois vers moi, c'est vraiment ce que je déteste. On est dans un monde... c'est-à-dire qu'il écrit... Ravalek écrit, en plus, le narrateur parle comme ses personnages parlent. Il n'y a aucun désir d'individualiser d'individualiser ses personnages. La moitié des phrases, il y a des interjections insupportables de jeunes sociétés, quoi, ces meufs.
Non, ça, c'est les deux parisiennes qui
parlent comme ça. C'est les deux parisiennes qui parlent comme ça.
C'est Sheila et Jeanne.
Voilà. Mais vous savez, c'est le grand problème. Quand on prend un livre, quand on écrit un livre où on se moque des clichés et où on écrit 30 clichés, on a quand même écrit un livre avec 30 clichés. Et voilà, c'est un livre bourré de clichés. Vraiment, pour moi, je me suis ennuyé profondément parce que j'ai pas rigolé. Alors que c'est vendu vraiment comme un livre d'humour, quoi. Un désopilant thriller rural, dit la quatrième. Ça m'a pas fait rire. J'ai vu beaucoup de clichés et j'ai pas été ébahi par l'écriture qui est une écriture journalistique. Alors c'est embêtant. Par exemple, à un moment, le narrateur dit le projet dans ce village, c'était un vrai serpent de mer. Mais qui dit ça? Qui dit un serpent de mer à part les journalistes qui n'ont pas le temps de réfléchir à dire autrement? C'est-à-dire que toutes les métaphores, même.
On salue nos camarades journalistes. Non, mais
je suis journaliste également.
Il y en a deux ou trois.
Tous.
Et d'ailleurs, si vous voyez, j'ai dit les journalistes qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire, j'ai pas dit tous les journalistes. C'est juste ceux qui n'ont pas le temps.
Mais les journalistes qui ont le temps, vous? Non, je rigole.
C'est vrai. Non, mais en tout cas, vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il reprend une sorte il reprend ce qu'il entend dans la société, sans chercher lui-même à créer ses propres images, qui est comme le propre, pour moi, d'un écrivain.
Bon, avis assez définitif aussi. Florent Georgesco.
Ah, j'aimerais tellement apporter des nuances, mais ça m'est vraiment impossible. Mais je crois qu'il y a la plus cruelle critique qui a été faite ce soir sur ce livre, c'est quand vous avez lu cet extrait, Arnaud. Cette langue pâteuse. Enfin bon, je ne vais pas répéter tout ce que Laurent a dit, puis je suis entièrement d'accord avec lui. Je vais peut-être signaler une chose.
Rare.
Mais oui, ça nous arrive.
Oui.
Il faudra fêter ça.
Moi
aussi. Je pourrais peut-être ajouter une chose, c'est que le pire de tout, c'est que ce n'est pas un roman, c'est le début d'une série. On ne l'a pas signalé jusque-là. Il y a une page à la fin qui nous dit « Bien entendu, l'histoire ne s'arrête pas là, car quid de la suite ?» Cette merveilleuse langue, ainsi de suite, que deviennent machin et truc, vous le saurez en lisant le retour d'Horace prochainement dans votre librairie. Donc apparemment, il a envie de faire une série, et on comprend à peu près ce qu'il a voulu faire. Il a voulu en effet faire une sorte de feuilleton, il veut lancer, mais... Il essaie de nouer quelques péripéties, il essaie de faire bouger tout ça, mais enfin, quelle péripétie accroche, c'est-à-dire que non seulement il écrit tout très mal, mais il n'a rien à écrire. Moi, je ne vois pas où est la, je vois même pas où est la satire en réalité. Grégoire, vous posiez la bonne question. Qui assume les clichés dans ce livre? Mais il faut quand même qu'il y ait un mouvement, une sorte de dialectique pour que le rapport aux clichés dans un livre soit satirique. Quel mouvement y a-t-il là-dedans? Quelle distance prend-il avec ça? Il essaie, encore une fois, il veut faire un feuilleton, donc il essaie d'aller assez vite dans le déploiement de son intrigue. il ne va pas à une vitesse sidérante déjà, parce que tout est à peu près la même chose en permanence. On a toujours les mêmes, des personnages qui ne bougent pas, qui ont toujours la même relation. Enfin, bon, il essaie ensuite de créer des accidents. Mais au-delà de ça, à quel moment regarde-t-il, à quel moment nous retourne-t-il le cliché? Je ne vois jamais ça. Et parce que de toute façon, c'est un problème de langue qu'il y a dans ce livre. Et encore une fois, on l'a entendu dans cet extrait, on pourrait tous lire n'importe quelle page au hasard, on aurait toujours cette même absence totale d'oreille, cette même mocheté.
C'est son oreille à lui, c'est encore autre chose, bah, ça, oui, Florent. Bah,
non, mais, non, je ne crois pas.
Si, parce que je pense qu'il y a... Enfin, pour atténuer un peu, enfin, pour apporter un peu une autre note, moi, je vois ça un peu comme de la fast littérature. Enfin, un livre, peut-être sans doute... Alors, vite écrit, mais ça c'est vraiment un jugement qui n'est fondé sur rien, peut-être a-t-il passé très longtemps, mais en tout cas, moi il me semble que c'est fait pour être vite lu, comme une sitcom, plutôt qu'un grand feuilleton, c'est plutôt du côté de la sitcom que ça se situe,
ça
avec des
de
personnages vraiment qui sont assez caricaturaux les uns et les autres, avec intrigue policière, un peu d'intrigue amoureuse, un peu de superstition, un peu de fantastique. Moi, j'étais plus intéressé par les personnages secondaires, les Justins, les Médé, enfin, ou le dealer marseillais. Je trouve que là, il se passait plus de choses. La question du trafic de drogue m'intéresse plus que ce que la fille d'en avant veut faire dans le village.
Mais pardon, ce que vous dites, Arnaud, est... cette fast littérature, c'est justement ça que ça pourrait être. Cette littérature feuilletonesque. C'est ce que, pour moi, un Sabri Louata réussit parfaitement. Et après, d'ailleurs, on lui reproche de pas avoir une langue parfaite. Moi, je l'ai défendu, j'ai défendu toute sa série, justement, parce que tout était imparfait. La langue n'était peut-être pas d'une grande qualité littéraire, mais il y avait une force, il y avait un mouvement réel et une vraie capacité à construire une intrigue de feuilleton. En fait, il essaie de faire du Sabri Louata à tous égards, mais il passe totalement à côté parce qu'il n'a pas les moyens de cette rapidité elle-même. Il n'a même pas les moyens du bâclage. Moi, j'aime beaucoup le bâclage. Je suis
Grégoire
pas pour le lécher, mais il ne sait pas bâcler son livre.
Ce torrent de critiques.
Oui, un peu, parce que dire qu'un livre est mal écrit, je trouve que ça veut tout et rien dire à la fois.
Là, pardonnez-moi, Grégoire, je viens justement de dire que c'était pas ce que je lui reprochais.
Je dis que l'écrit mal,
et en plus il le fait sans force. C'est pas la même chose.
Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une énergie, il y a un peps, il y a une rapidité, il y a un rythme dans sa façon de tchatcher, dans sa façon de piquer des mots à ses personnages en faisant du style indirect livre. Vous dites qu'il joue pas avec les clichés. Il fait ça du début à la fin. Il sait très bien.
Il y a des clichés.
Il sait très bien ce qu'il manipule comme cliché. Et il joue en permanence avec eux.
Mais comment savez-vous qu'il le sait? À quel moment vous le voyez dans le texte?
Mais parce que j'ai lu le livre.
Mais
je me suis rendu compte qu'il jouait avec moi aussi. Et avec les clichés que je peux avoir moi sur un bled d'Auvergne, parce que j'ai dit tout à l'heure que le maire du village était en réalité un mafieux, on le découvre par petites touches, il nous le dit pas tout de suite. Donc il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des nouveaux personnages qui apparaissent, tout le temps, et des personnages qu'on croyait extrêmement secondaires, qui en fait le sont moins que ce qu'on croyait, qui sans doute vous dites qu'ils se contentent de copier le réel et de rester au ras du réel. C'est pas vrai, il y a une fantaisie complètement dingue, l'histoire de la semence du taureau qui veut récupérer pour régénérer
Horace,
sa région,
donc, justement,
le fameux Horace. Donc je pense que ce sera un des axes
sujet du prochain
un des sujets principaux du tome 2 que moi je serais content de lire, parce que je me demande s'il va la récupérer, sa semence d'Horace qui est partie en Écosse. Enfin, c'est assez délirant comme livre, hein. Je comprends qu'on trouve pas ça, qu'on n'accroche pas, mais je trouve qu'il a un vrai savoir-faire et qu'il le tient son scénario, il tient ses personnages et il réussit à nous parler du monde d'aujourd'hui de manière au dixième degré, de manière très fantaisiste. Mais il réussit à nous parler du problème de la désertification rurale. Il réussit à nous parler de la manière dont les politiques venues de Paris sont perçues par les gens et dont les politiques parisiens perçoivent les gens. Enfin, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il arrive à concentrer pas mal de choses en faisant semblant de faire ça complètement par-dessus la jambe. Mais je crois pas que ce soit par-dessus la jambe.
Moi non plus.
Boris Pinot, commentaire.
Oui, une bonne nouvelle pour l'auteur de Delanvaux sur Twitter avec Sainte-Croix les Vaches. Vincent Ravalec vient de gagner un nouveau lecteur.
Bon. Voilà. Vous vouliez ajouter, Laurent? Non.
Non.
Non, non, je ne veux pas.
Non, je crois qu'on a
mais,
tout
non,
dit,
mais vous voyez, par une idée, en tout cas, qui m'a réjoui, c'est que on verra pourquoi ce dealer agriculteur paysan maire louche a lu Walden et lit le rivage des cirques. Moi, ça m'a assez réjoui comme idée et la façon dont c'est amené. Ah oui. Laurent Nunez.
C'est drôle ça.
Non, en tout cas, on peut dire que si les romanciers américains avaient un désir de roman global ou total, ouais. On voit clairement peut-être ici les Français en effet ont un désir de roman à chronique ou de roman à épisode. Vous savez, Vernon Subutex était là. J'ai oublié celui qui est écrit à la place du cœur. Très bon livre. Il y a le numéro 3 sort en mars. Mais en tout cas, il y a un désir.
On sent, en tout cas, qu'il y a une volonté
de littérature sérielle.
D'être adapté par la télé en série.
Voilà la volonté.
Au pire des cas,
nous savons très bien comment ça se passe.
Tomber amoureux de ces personnages.
Oui, bien sûr, c'est une histoire d'amour. mais qui peut permettre de gagner de l'argent en plus.
Sainte-Croix, Les Vaches de Vincent Ravalec est publié chez Fayard. Un peu de paix à présent et le jeu de la dispute qui va nous permettre déjà de savoir quelle était la réponse à la question posée hier au soir que Camille André nous rappelle.
Dans le film Wajib, l'invitation au mariage, quelle est la particularité des acteurs endossant les rôles du père et du fils ? Eh bien, ils sont père et fils à l'écran et dans la vie.
Ce soir, cinéma encore, des places à gagner pour le documentaire Finding Fong de Tran Phuong Thao et Svan Dubus Mallet. Le film est sorti hier. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, quel est le titre du premier film de Svan Dubus Mallet, co-réalisatrice du documentaire Finding Fong ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC ou pendant le direct sur Twitter en suivant le compte Dispute FC. Demain donc, 19h, une émission consacrée aux séries. Nous serons comme chaque vendredi en public au bar Le Bel Air, le bar de la maison de la radio. Je serai avec Iris Bray, Joseph Gosne et Olivier Joyard et on parlera de Here and Now d'Alan Ball, de Irresponsable saison 2 de Frédéric Rosset et de Altered Carbon de Laeta Kalogridis.